Chapitre 12, où le lecteur fera connaissance avec frère Goranflot, dont il a déjà été parlé deux fois dans le cours de cette histoire. À la belle journée avait succédé une belle soirée. Seulement, comme la journée avait été froide, la soirée était plus froide encore. On voyait se condenser sous le chapeau des bourgeois attardés la vapeur de leur haleine rougie par la lueur du falot. On entendait distinctement les pas des passants sur le sol glacé et le hum sonore arraché par la froidure et répercuté par les surfaces élastiques, comme dirait un physicien de nos jours. En un mot, il faisait une de ces jolies gelées printanières qui font trouver un double charme à la belle couleur rose des vitres d'une hôtellerie. Chicot entra dans la salle d'abord, plongea ses regards dans les coins et recoins, et ne trouvant point parmi les hôtes de maître Claude celui qu'il cherchait, il passa familièrement à la cuisine. Le maître de l'établissement était en train d'y faire une lecture pieuse, tandis qu'un flot de fritures contenu dans une immense poêle était en train d'attendre le degré de chaleur nécessaire à l'introduction dans cette poêle de plusieurs merlans tout enfarinés. Au bruit que fit Chicot en entrant, maître Bonhomé leva la tête. « Ah, c'est vous, mon gentilhomme, » dit-il en fermant son livre. « Bonsoir et bon appétit. Merci du double souhait, quoique la moitié en soit faite autant à votre profit qu'au mien. Mais cela dépendra. »« Comment cela dépendra ?»« Oui, vous savez que je ne puis souffrir manger seul. » « S'il le faut, monsieur, » dit Bonhomé en levant son bonnet pistache, « je souperai avec vous. »« Merci, mon cher hôte, quoique je vous sache excellent convive, mais je cherche quelqu'un. »« Frère Goranflot, peut-être, » demanda Bonhomé. « Justement, » répondit Chicot, « a-t-il commencé de souper ?»« Non, pas encore, mais dépêchez-vous cependant. »« Que je me dépêche ?»« Oui, car dans 5 minutes, il aura fini. » Frère Goranflot n'a pas commencé de souper, et dans 5 minutes il aura fini, dites-vous. Et Chicot secoua la tête, ce qui, dans tous les pays du monde, passe pour le signe de l'incrédulité. « Monsieur, dit maître Claude, c'est aujourd'hui mercredi, et nous entrons en carême. »« Eh bien, dit Chicot, d'un air qui prouvait peu en faveur des tendances religieuses de Goranflot, après... » « Ah, dame, répliqua Claude avec un geste qui signifiait évidemment, je ne comprends pas plus que vous, mais c'est ainsi. »« Décidément, répliqua Chicot, il y a quelque chose de dérangé dans la machine sublunaire. 5 minutes pour le souper de Goranflot, je suis destiné à voir aujourd'hui des choses miraculeuses. » Et de l'air d'un voyageur qui met le pied sur une terre inconnue, Chicot fit quelques pas vers une espèce de cabinet particulier dont il poussa la porte vitrée, fermée d'un rideau de laine à carreaux blancs et roses, et dans le fond duquel il aperçut, à la lueur d'une chandelle à la mèche fumeuse, le digne moine qui retournait négligemment sur son assiette une maigre portion d'épinards cuits à l'eau qu'il essayait de rendre plus savoureux par l'introduction dans cette substance herbacée d'un reste de fromage de suresne. Pendant que le digne frère opère ce mélange avec une moue indiquant qu'il ne compte pas beaucoup sur cette triste combinaison, essayons de le présenter à nos lecteurs sous un jour qui les dédommagera d'avoir tardé si longtemps à faire sa connaissance. Frère Goranflot pouvait avoir 38 ans et 5 pieds de roi. Cette taille, un peu exiguë peut-être, était rachetée, à ce que disait le frère, par l'admirable harmonie des proportions, car ce qu'il perdait en hauteur, il le rattrapait en largeur, comptant près de 3 pieds de diamètre d'une épaule à l'autre, ce qui, comme chacun le sait, équivaut à 9 pieds de circonférence. Au centre de ces omoplates herculéennes s'emmanchait un large cou sillonné de muscles gros comme le pouce et saillant comme des cordes. Malheureusement, le cou, lui aussi, se trouvait en proportion avec le reste, c'est-à-dire qu'il était gros et court, ce qui, aux premières émotions un peu fortes qu'éprouverait frère Goranflot, rendrait l'apoplexie imminente. Mais, ayant la conscience de cette défectuosité et du danger qu'elle lui faisait courir, frère Goranflot ne s'impressionnait jamais. Il était même, nous devons le dire, fort rare de le voir affecté aussi visiblement qu'il l'était à l'heure où Chico entra dans le cabinet. Hé, hey, notre ami, que faites-vous donc là? S'écria notre Gascon, en regardant alternativement les herbes, Goranflot, la chandelle non mouchée et certains anapes jusqu'au bord remplis d'une eau teinte à peine par quelques gouttes de vin. Vous le voyez, mon frère, je soupe, répondit Goranflot en faisant vibrer une voix puissante comme la cloche de son abbaye. Vous appelez cela souper, vous, Goranflot, des herbes, du fromage? Allons donc, s'écria Chico. Nous sommes dans l'un des premiers mercredis de carême. Faisons notre salut, mon frère. Faisons notre salut, répondit Goranflot en nasillant et en levant béatement les yeux au ciel. Chico demeura stupéfait. Son regard indiquait qu'il avait déjà plus d'une fois vu Goranflot glorifier d'une autre manière ce saint temps de carême dans lequel on venait d'entrer. « Notre salut, répéta-t-il, et que diable l'eau et les herbes ont-elles à faire avec notre salut ?»« Vendredi, chair ne mangera, ni le mercredi mêmement, » dit Goranflot. « Mais à quelle heure avons-nous déjeuné ?»« Je n'ai point déjeuné, mon frère, » dit le moine en nasillant de plus en plus. « Non, s'il ne s'agit que de nasiller, » dit Chico, « je suis prêt à faire assaut avec tous les Génovéfins du monde. » « Alors, si vous n'avez pas déjeuné, » dit Chico, en nasillant en effet d'une façon immodérée, « qu'avez-vous donc fait, mon frère ?»« J'ai composé un discours, » reprit Goranflot en relevant fièrement la tête. « Ah bah, un discours, et pourquoi faire ?»« Pour le prononcer ce soir, à l'abbaye. »« Tiens, » pensa Chico, « un discours ce soir, c'est drôle. » Et même, ajouta Goranflot en portant à sa bouche une première fourchetée d'épinards au fromage, il faut que je songe à rentrer, mon auditoire s'impatienterait peut-être. Chico songea au nombre infini de moines qu'il avait vus s'avancer vers l'abbaye, et se rappelant que M. de Mayenne, selon toute probabilité, était au nombre de ces moines, il se demanda comment Goranflot, qui jusqu'à ce jour avait été apprécié pour des qualités qui n'avaient aucun rapport avec l'éloquence, avait été choisi par son supérieur, Joseph Foulon, alors abbé de Sainte-Geneviève, pour prêcher devant le prince Lorrain et une si nombreuse assemblée. « Bah, dit-il, et à quelle heure prêchez-vous »« De 9 heures à 9h30, mon frère. »« Bon, nous avons 9h-15, vous me donnerez bien 5 minutes, ventre de biche. Il y a plus de 8 jours que nous n'avons trouvé l'occasion de dîner ensemble. »« Ce n'est point notre faute, » dit Goranflot, « et notre amitié n'en souffre nulle atteinte. Je vous prie de le croire, très cher frère. Les devoirs de votre charge vous enchaînent près de notre grand roi Henri III, que Dieu conserve. » Les devoirs de mon état m'imposent la quête, et après la quête, les prières. Il n'est donc pas étonnant que nous nous trouvions séparés. Oui, mais, corbeuf, dit Chico, c'est, ce me semble, une nouvelle raison d'être joyeux quand nous nous retrouvons. Aussi, je suis infiniment joyeux, dit Goranflot avec la plus piteuse mine de la terre, mais il n'en faut pas moins que je vous quitte. Et le moine fit un mouvement pour se lever. « Achevez au moins vos herbes, » dit Chico, en lui posant la main sur l'épaule et en le faisant se rasseoir. Goranflot regarda les épinards et poussa un soupir. Puis ses yeux se portèrent sur l'eau rougie et il détourna la tête. Et Chico vit que le moment était venu de commencer l'attaque. « Vous rappelez-vous ce petit dîner dont je vous parlais tout à l'heure, hein, dit-il, à la porte Montmartre, vous savez où ? Tandis que notre grand roi Henri III se fouettait et fouettait les autres, nous mangeâmes une sarcelle des marais de la grange batelière avec un coulis d'écrevisses, et nous bûmes de ce joli vin de Bourgogne. Comment appelez-vous donc ce vin-là ? N'est-ce pas du vin que vous avez découvert ? « C'est un vin de mon pays, » dit Goranflot, « de la Romanée. Oui, oui, je me rappelle, c'est le lait que vous avez été en venant au monde, digne fils de Noé. » Goranflot passa avec un mélancolique sourire sa langue sur ses lèvres. « Que dites-vous de ce vin ? » dit Chico. « Il était bon, » dit le moine, « mais il y en a cependant du meilleur. » Ah, c'est ce que soutenait l'autre soir Claude Bonhomet, notre hôte, lequel prétend qu'il a dans sa cave 50 bouteilles, près duquel celui de son confrère de la porte Montmartre n'est que de la piquette. C'est la vérité, dit Gorenflot. Comment, c'est la vérité? S'écria Chicot, et vous buvez de cette abominable eau rougie quand vous n'avez que le bras à tendre pour boire de pareils vins? Pouah! Et Chicot, prenant le hanap, en jeta le contenu par la chambre. Il y a un temps pour tout, mon frère, dit Gorenflot. Le vin est bon lorsqu'on n'a plus à faire, après l'avoir bu, qu'à glorifier le Dieu qui l'a fait. Mais lorsque l'on a un discours à prononcer, l'eau est préférable, non pas au goût, mais à l'usage. Facunda est aqua. Bah, dit Chicot, magis facundum est vino, mais la preuve, c'est que moi, qui ai aussi un discours à prononcer, et qui ai foi dans ma recette, je vais demander une bouteille de ce vin de la Romanée, et ma foi, que me conseillez-vous de prendre avec, Gorenflot? Ne prenez pas de ces herbes, dit le moine, elles sont, on ne peut plus, mauvaises. Bon, dit Chicot, en prenant l'assiette de Gorenflot et en la portant à son nez. Bon. Et cette fois, ouvrant une petite fenêtre, il jeta dans la rue herbe et assiette. Puis, se retournant, « Maître Claude » cria-t-il. L'hôte, qui probablement se tenait aux écoutes, parut sur le seuil. « Maître Claude, dit Chicot, apportez 2 bouteilles de ce vin de Romanée que vous prétendez avoir meilleur que personne. »« 2 bouteilles, dit Gorenflot, et pourquoi faire, puisque je n'en bois pas ?» Si vous en buviez, j'en ferais venir 4 bouteilles, j'en ferais venir 6 bouteilles, je ferais venir tout ce qu'il y a dans la maison, dit Chicot, mais quand je bois seul, je bois mal, et 2 bouteilles me suffiront. En effet, dit Gorenflot, 2 bouteilles, c'est raisonnable, et si vous ne mangez avec cela que des substances maigres, votre confesseur n'aura rien à vous dire. Certainement, dit Chicot, du gras un mercredi de carême, fi donc. Et se dirigeant vers le garde-manger, tandis que maître Bonhomet s'en allait chercher à la cave les 2 bouteilles demandées, il en tira une fine poularde du Mans. Que faites-vous là, mon frère? Dit Gorenflot, qui suivait avec un intérêt involontaire les mouvements du Gascon. Que faites-vous là? Vous voyez, je m'empare de cette carpe, de peur qu'un autre ne mette la main dessus. Les mercredis de carême, il y a concurrence sur ces sortes de comestibles. Une carpe, dit Gorenflot, étonné. Sans doute, une carpe, dit Chicot, en lui mettant sous les yeux l'appétissante volaille. Et depuis quand une carpe a-t-elle un bec? Demanda le moine. Un bec, dit le Gascon. Où voyez-vous un bec? Je ne vois qu'un museau. Des ailes, continua le Génovais fin, des nageoires, des plumes, des écailles, mon cher Gorenflot, vous êtes ivre. Ivre, s'écria Gorenflot, ivre. Oh, par exemple, moi qui n'ai mangé que des épinards et qui n'ai bu que de l'eau. Eh bien, ce sont vos épinards qui vous chargent l'estomac et votre eau qui vous monte à la tête. Parbleu, dit Gorenflot, voici notre hôte, il décidera. Quoi? Si c'est une carpe ou une poularde. Soit, mais d'abord qu'il débouche le vin, je tiens à savoir si c'est le même. Débouchez, maître Claude. Maître Claude déboucha 1 bouteille et en versa 1 demi-verre à Chicot. Chicot avala le demi-verre et fit claquer sa langue. Ah, dit-il, je suis un triste dégustateur et ma langue n'a pas la moindre mémoire. Il m'est impossible de dire s'il est plus mauvais, s'il est meilleur que celui de la porte Montmartre. Je ne suis pas même sûr que ce soit le même. Les yeux de Gorenflot étincelaient en regardant au fond du verre de Chicot les quelques gouttes de rubis liquide qui y étaient restées. Ah, tenez, mon frère, dit Chicot en versant plein dés de vin dans le verre du moine, vous êtes en ce monde pour votre prochain, dirigez-moi. Gorenflot prit le verre, le porta à ses lèvres et dégusta lentement le peu de liqueur qu'il contenait. Oh, c'est du même cru, à coup sûr, dit-il, mais, reprit Chicot, mais il y en avait trop peu pour que je puisse dire s'il était plus mauvais ou meilleur. Ah, je tiens cependant à le savoir, dit Chicot, peste, je ne veux pas être trompé, et si vous n'aviez pas un discours à prononcer, mon frère, je vous prierais de déguster ce vin pour la seconde fois. Ce sera pour vous faire plaisir, dit le moine. Pardieu, Chichico, et il remplit à moitié le verre du Génovais fin. Grandflot porta le verre à ses lèvres avec non moins de respect que la première fois, et le dégusta avec non moins de conscience. Oh, meilleur, dit-il, meilleur, j'en réponds. Bah, vous vous entendez avec notre hôte. Un bon buveur, dit Grandflot, doit au premier coup reconnaître le cru, au second la qualité, au troisième l'année. Oh, l'année, dit Chico, que je voudrais savoir l'année de ce vin. C'est bien facile, répondit Grandflot, en tendant son verre. Versez-m'en deux gouttes seulement, et je vais vous le dire. Chico remplit le verre du moine aux trois quarts. Le moine vida le verre lentement, mais sans s'y reprendre. 1561, dit-il en reposant le verre. Noël, cria Claude Bonhomé, 1561, c'est juste cela. Frère Grandflot, dit le Gascon en se découvrant, on en a béatifié à Rome qui ne le méritait pas autant que vous. Un peu d'habitude, mon frère, dit modestement Grandflot. Et de prédisposition, dit Chico Peste, l'habitude seule n'y fait rien, témoin, moi, qui ai la prétention d'avoir l'habitude, eh bien, que faites-vous donc? Vous le voyez, je me lève. Pourquoi faire? Mais pour aller à mon assemblée, sans manger un morceau de ma carpe. Ah, c'est vrai, dit Grandflot, il paraît, mon digne frère, que vous vous connaissez encore moins en nourriture qu'en boisson. Maître Bonhomé, qu'est-ce que c'est que cet animal? Et le frère Grandflot montra l'objet de la discussion. L'aubergiste regarda avec étonnement celui qui lui faisait la question. « Oui, reprit Chico, on vous demande qu'est-ce que c'est que cet animal ?»« Mais parbleu, dit l'autre, c'est une poularde. »«
Une poularde ?» reprit Chico d'un air consterné.
« Et dûment même, continua maître Claude.
« Eh bien, fit Grandflot triomphant.
« Eh bien, dit Chico, j'ai tort à ce qu'il paraît, mais comme je tiens beaucoup à manger cette poularde et à ne point pêcher cependant, faites-moi le plaisir, mon frère, au nom de nos sentiments réciproques, de jeter sur elle quelques gouttes d'eau et de la baptiser carpe. »«
Ah, fit Grandflot.
« Oui, je vous en prie, dit le Gascon, sans quoi j'aurais mangé peut-être quelque animal en état de péché mortel. »
Soit, dit Grandflot, qui, par sa nature, excellent compagnon, commençait d'être mis en train par les trois dégustations qu'il avait faites. Mais il n'y a plus d'eau.
Il est dit, je ne sais plus où, reprit Chico, tu te serviras en cas d'urgence de ce que tu trouveras sous la main. L'intention fait tout. Baptiser avec du vin, mon frère, baptiser avec du vin. L'animal en sera peut-être un peu moins catholique, mais il ne sera pas plus mauvais. Et Chico remplit bord à bord le verre du moine. La première bouteille y passa.
Au nom de Bacchus, de Momus et de Comus, Trinité du grand saint Pantagruel, dit Grandflot, je te baptise carpe.
Et trempant le bout de ses doigts dans le vin, il en laissa tomber deux ou trois gouttes sur l'animal.
Maintenant, dit le Gascon, en choquant son verre contre celui du moine, à la santé de la nouvelle baptisée, puisse-t-elle être cuite à point, et puisse l'art que va déployer maître Claude Bonhomé pour la perfectionner, ajouter encore aux qualités qu'elle a reçues de la nature.
À sa santé, dit Grandflot, en interrompant un rire bruyant, pour avaler le verre de vin de Bourgogne que lui avait versé Chico.
À ta santé, morbleu, voilà de fiers vins.
Maître Claude, dit Chico, mettez-moi incontinent cette carpe à la broche. Arrosez-la-moi avec du beurre frais dans lequel vous allez hacher menu du lard et des échalotes. Puis, quand elle commencera à dorer, glissez-moi deux rôtis dans la lèche frite et servez chaud.
Grandflot ne soufflait pas un mot, mais il approuvait de l'œil et avec un certain petit mouvement de tête qui indiquait une complète adhésion.
Maintenant, dit Chico, quand il eut vu ses intentions remplies, des sardines, maître Bonhomé, du thon, nous sommes en carême, comme le disait tout à l'heure le pieux frère Grandflot, je veux faire un dîner tout à fait maigre, et puis attendez donc deux autres bouteilles de cet excellent vin de la Romanée de 1561.
Les parfums de cette cuisine, qui rappelaient la cuisine méridionale si chère aux véritables gourmands, commençaient à se répandre et montaient insensiblement au cerveau du moine. Sa langue devint humide, ses yeux brillèrent, mais il se contint encore, et même il fit un mouvement pour se lever. Ainsi donc, dit Chicot, vous me quittez comme cela au moment du combat. Il le faut, mon frère, dit Gorenflot en levant les yeux au ciel, pour bien indiquer à Dieu le sacrifice qu'il lui faisait. C'est bien imprudent à vous d'aller prononcer un discours à jeun. Pourquoi? Bégaya le moine. Parce que vous manquerez de poumons, mon frère. Gallion l'a dit, pulmo hominis facile deficit. Le poumon de l'homme est faible et manque facilement. « Hélas, oui, dit Gorenflot, et je l'ai souvent éprouvé moi-même. Si j'avais eu des poumons, j'eusse été un foudre d'éloquence. »« Vous voyez bien, fit Chicot. » « Heureusement, reprit Gorenflot en retombant sur sa chaise, heureusement que j'ai du zèle. »« Oui, mais le zèle ne suffit pas. À votre place, je goûterai de ces sardines et je boirai encore quelques gouttes de ce nectar. » Une seule sardine, dit Gorenflot, et un seul verre. Chicot posa une sardine sur l'assiette du frère et lui passa la seconde bouteille. Le moine mangea la sardine et but le contenu du verre. Eh bien, demanda Chicot, qui, tout en poussant le Génovais fin sur l'article de la nourriture et de la boisson, demeurait fort sobre. Eh bien, en effet, dit Gorenflot, je me sens moins faible. Ventre de biche, dit Chicot, quand on a un discours à prononcer, il ne s'agit pas de se sentir moins faible, il s'agit de se sentir tout à fait bien. Et à votre place, continua le Gascon, pour arriver à ce but, je mangerai les deux nageoires de cette carpe, car si vous ne mangez pas davantage, vous risquez de sentir le vin. « Merum sobrio male olet. »« Ah, diable, fit Gorenflot, vous avez raison, je n'y songeais pas. » Et comme en ce moment on tirait la poularde de la broche, Chicot coupa une de ses pattes qu'il avait baptisée du nom de nageoire, patte que le moine mangea avec la jambe et avec la cuisse. « Corps du Christ, fit Gorenflot, voilà de savoureux poissons. » Chicot lui coupa l'autre nageoire qu'il déposa sur l'assiette du moine, tandis qu'il suçait délicatement l'aile. « Et de fameux vin, dit-il en débouchant la troisième bouteille. Une fois lancé, une fois échauffé, une fois réveillé dans les profondeurs de son estomac immense, Gorenflot n'eut plus la force de s'arrêter lui-même. Il dévora l'aile, fit un squelette de la carcasse, et appelant bonhomé, « Maître Claude, dit-il, j'ai très faim. Ne m'aviez-vous pas offert certaine omelette au lard ?»« Certainement, dit Chicot, et même elle est commandée, n'est-ce pas, bonhomé ?» Sans doute, fit l'aubergiste, qui ne contredisait jamais ses pratiques quand leur discours tendait à un surcroît de consommation et par conséquent de dépenses. Eh bien, apportez, apportez, maître, dit le moine. Dans 5 minutes, répondit l'hôte, qui, sur un coup d'œil de Chicot, sortit diligemment pour préparer ce qu'on lui demandait. Ah, fit Gorenflot en laissant retomber sur la table son énorme poing armé d'une fourchette. Cela va mieux. « N'est-ce pas ?» fit Chicot. « Et si l'omelette était là, je n'en ferais qu'une bouchée, comme de ce verre je ne fais qu'une gorgée. » Et l'œil étincelant de gourmandise, le moine avala le quart de la troisième bouteille. « Ah ça, dit Chicot, vous étiez donc malade ?»« Je te niais, l'ami, dit Gorenflot. Ce maudit discours m'avait écœuré. Depuis 3 jours, j'y pense. » « Il devait être magnifique, dit Chicot. »« Splendide, dit le moine. Dites-moi quelque chose en attendant l'omelette. »« Non pas, s'écria Gorenflot, un sermon à table. Où as-tu vu cela, maître fou? À la cour du roi, ton maître ?»« On prononce de fort beaux discours à la cour du roi Henri, que Dieu conserve, dit Chicot en levant son feutre. »« Et sur quoi roulent ces discours ?» demanda Gorenflot. « Sur la vertu, dit Chicot. »« Ah oui !» s'écria le moine en se renversant sur sa chaise. « Avec cela que voilà encore un gaillard bien vertueux que ton roi Henri III. »« Je ne sais s'il est vertueux ou non, reprit le Gascon, mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais rien vu dont j'ai eu à rougir. »« Je le crois, mordieu bien, dit le moine, il y a longtemps que tu ne rougis plus, maître paillard. Oh, Fichico, paillard, moi, l'abstinence en personne, la continence en chair et en eau, moi qui suis de toutes les processions, de tous les jeûnes. Oui, de ton Sardanapale, de ton Nabucodonosor, de ton Hérode, processions intéressées, jeûnes calculés. Heureusement, on commence à le savoir par cœur, ton roi Henri III, que le diable emporte. Et Goranflot, en place du discours refusé, entonna à pleine gorge la chanson suivante. Le roi, pour avoir de l'argent, a fait le pauvre et l'indigent, et l'hypocrite. Le grand pardon, il a gagné, au pain, à l'eau, et à jeûner, comme un ermite. Mais Paris, qui le connaît bien, ne lui vaudra plus prêter rien à sa requête, car il a déjà tant prêté qu'il a de lui dire « arrêtez, allez en quête ». Bravo, cria Chico, bravo! Puis tout bas, bon, ajouta-t-il, puisqu'il chante, il parlera. En ce moment, maître Bonhomé entra, tenant d'une main la fameuse omelette et de l'autre deux nouvelles bouteilles. « Apporte, apporte !» cria le moine, dont les yeux étincelèrent et dont un large sourire découvrit les 32 dents. « Mais notre ami, dit Chico, il me semble que vous avez un discours à prononcer. » « Le discours est là, dit le moine en frappant son front, que commençait à envahir l'ardent enluminure de ses joues. « À 9h30, dit Chico. « Je m'en tais, dit le moine. « Omnis homo mendax confiteor. « Et pour quelle heure était-ce donc véritablement ?»« Pour 10 heures. « Pour 10 heures, je croyais que l'abbaye fermait à 9. » Quelle ferme, dit Goranflot en regardant la chandelle à travers le bloc de rubis contenu dans son verre. Quelle ferme, j'en ai la clé. La clé de l'abbaye, s'écria Chico, vous avez la clé de l'abbaye. Là, dans ma poche, dit Goranflot en frappant sur son froc. Là. Impossible, dit Chico, je connais les règles monastiques, j'ai été en pénitence dans 3 couvents, on ne confie pas la clé de l'abbaye à un simple frère. La voilà, dit Goranflot, en se renversant sur sa chaise et en montrant avec jubilation une pièce de monnaie à Chico. Tiens, de l'argent, fit Chico, ah, je comprends, vous corrompez le frère portier pour rentrer aux heures qui vous plaisent, malheureux pêcheur. Goranflot fendit sa bouche jusqu'aux oreilles avec ce béat et gracieux sourire de l'homme ivre. « Soufichit !» balbutia-t-il, et il s'apprêtait à remettre la pièce d'argent dans sa poche. « attendez donc, dit Chico, tiens, la drôle de monnaie !»« À l'effigie de l'hérétique, dit Goranflot, aussi troué à l'endroit du cœur !» Ah, « en effet, dit Chico, c'est un teston frappé par le roi de Béarn, et voilà effectivement un trou. »« Un trou de poignard, dit Goranflot, mort à l'hérétique, celui qui tuera l'hérétique est béatifié d'avance, et je lui donne ma part de paradis. » Ah, fit Chico, voilà les choses qui commencent à se dessiner, mais le malheureux n'est pas encore assez ivre. Et il remplit de nouveau le verre du moine. « Oui, dit le Gascon, mort à l'hérétique et vive la messe. » « Vive la messe !» dit Goranflot en ingurgitant le verre d'un seul trait. « Vive la messe !» Ainsi, dit Chico, qui, en voyant le teston au fond de la large main de son convive, se rappelait le frère portier, examinant les mains de tous les moines qu'il avait vus abonder sous le porche de l'abbaye, « ainsi, vous montrez cette pièce de monnaie au frère portier et... « Et j'entre !» dit Goranflot. « Sans difficulté !» Comme ce verre entre dans mon estomac, et le moine absorba une nouvelle dose du généreux liquide. Peste, dit Chico, si la comparaison est juste, vous devez entrer sans toucher les bords. C'est-à-dire, balbutia Goranflot ivre mort, c'est-à-dire que, pour frère Goranflot, on ouvre les 2 battants. Et vous prononcez votre discours? « Et je prononce mon discours, dit le moine. Voilà comme ça se pratique. J'arrive. Tu entends bien, Chico ? J'arrive. Je crois bien que j'entends. Je suis tout oreille. J'arrive donc, comme je le disais. L'assemblée est nombreuse et choisie. Il y a des barons, il y a des comtes, il y a des ducs. Et même des princes. Même des princes, répéta le moine, tu l'as dit, des princes, rien que cela. J'entre humblement parmi les fidèles de l'Union.
Les fidèles de l'Union, répéta à son tour Chicot, qu'est-ce que cette fidélité-là?
J'entre parmi les fidèles de l'Union, on appelle frère Gorenflot, et je m'avance.
À ces mots, le moine se leva. « C'est cela, dit Chicot, avancez.
Et je m'avance, reprit Gorenflot, essayant de joindre l'exécution à la parole.
Mais à peine eut-il fait un pas qu'il trébucha à l'angle de la table et roula sur le parquet.
« Ah, bravo !» cria le Gascon en le relevant et en le rasseyant sur une chaise. « Vous vous avancez, vous saluez l'auditoire et vous dites... »«
Non, je ne dis pas, ce sont les amis qui disent... »
Et que disent-ils, les amis?
Les amis disent, frère Gorenflot, le discours de frère Gorenflot, hein, beau nom de ligueur, frère Gorenflot.
Et le moine répéta son nom en le caressant de l'intention.
Ah, beau nom de ligueur, répéta Chicot. Quelle vérité va donc sortir du vin de cet ivrogne?
Alors je commence.
Et le moine se releva, fermant les yeux parce qu'il était ébloui, s'appuyant au mur parce qu'il était mort ivre.
« Vous commencez, dit Chicot, en le maintenant contre la muraille, comme Paillasse fait l'arlequin.
Je commence. Mes frères, c'est un beau jour pour la foi. Mes frères, c'est un bien beau jour pour la foi. Mes frères, c'est un très beau jour pour la foi. »
Après ce superlatif, Chicot vit qu'il n'y avait plus rien à tirer du moine, aussi le lâcha-t-il.
Frère Gorenflot, qui ne gardait cet équilibre que grâce à l'appui que lui présentait Chicot, aussitôt que cet appui lui manqua, glissa le long de la muraille comme une planche mal assurée et de ses pieds alla heurter la table du haut de laquelle la secousse qu'il lui imprima fit tomber quelques bouteilles vides.
« Amen !» dit Chicot.
Presque au même instant, un ronflement pareil à celui du tonnerre fit gémir les vitres de l'étroit cabinet.
« Bon, dit Chicot, voilà les pattes de la poularde qui font leur effet. Notre ami en a pour 12 heures de sommeil, je puis le déshabiller sans inconvénient. »
Aussitôt, jugeant qu'il n'avait pas de temps à perdre, Chicot dénoua les cordons de la robe du moine, en fit sortir chaque bras, et, retournant Gorenflot comme il eût fait un sac de noix, il le roula dans la nappe, le coiffa d'une serviette, et, cachant le froc du moine sous son manteau, il passa dans la cuisine.
« Maître Bonhomé, dit-il, en donnant à l'aubergiste un noble à la rose, voilà pour notre souper, voilà pour celui de mon cheval que je vous recommande, et voilà surtout pour qu'on ne réveille pas le digne frère Gorenflot qui dort comme un élu.
Bien, dit l'aubergiste, qui trouvait son compte à ces trois choses-là, soyez tranquille, monsieur Chicot. » Sur cette assurance, Chicot sortit, et léger comme un daim, clairvoyant comme un renard, il gagna l'angle de la rue Saint-Étienne, où, après avoir mis avec grand soin le teston à l'effigie du Béarn dans sa main droite, il endossa la robe du frère et à 10h15 s'en vint, non sans un certain battement de cœur, se présenter à son tour au guichet de l'abbaye Sainte-Geneviève.